Terroir Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 14 septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Tout d'abord les titres. Inflation, réconciliation, corruption, tels sont les défis pour William Ruto, investi président hier au Kenya. Des milliers de Soudanais sont descendus dans la rue hier à Khartoum pour réclamer une nouvelle fois le départ des militaires. Au Congo-Brazzaville, lancement mardi des états généraux pour tenter de soigner les maux de l'éducation. En Afrique du Sud, deux décès signalés après une vaccination anti-Covid Johnson & Johnson. Au moins 100 morts dans les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les plus violents depuis la guerre entre les deux pays en 2020. Appel mardi du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à la solidarité dans un monde en danger, à l'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. William Ruto a prêté serment hier, mardi, en tant que nouveau président du Kenya, la locomotive économique d'Afrique de l'Est, avec devant lui de nombreux défis dans un pays divisé et englué dans une inflation galopante et une lourde dette. Le point avec Ginny Nua.
Stratège politique, William Ruto s'est présenté durant la campagne comme le chantre des débrouillards du petit peuple face aux dynasties incarnées par Raila Odinga et le président sortant Uhuru Kenyatta, dont les familles ont dominé la vie politique depuis l'indépendance en 1963. Le pays fait face à une explosion des prix des carburants et des produits de première nécessité. L'inflation a atteint 8,5% en août, son plus haut niveau depuis 5 ans, combiné à une chute du shilling kényan, la monnaie nationale. Le chômage reste un problème majeur, surtout chez les jeunes. William Ruto a promis de mettre en place un fonds d'environ 410 millions d'euros pour accorder des prêts aux petites entreprises. Cet ancien ministre de l'Agriculture s'est aussi engagé à diviser par deux le prix des engrais d'ici la semaine prochaine pour redynamiser le secteur agricole, pilier de l'économie. Le nouveau pouvoir est censé tenir toutes ses promesses alors que la dette du pays a été multipliée par 6 depuis 2013 et dépasse les 70 milliards d'euros, soit 67% du produit intérieur brut.
Des milliers de Soudanais ont manifesté hier dans les rues de Khartoum pour réclamer une nouvelle fois le départ des militaires et la remise du pouvoir aux civils. Le point avec Abdourahman Dia.
Des manifestants ont brandi des portraits des victimes de la répression, tandis que d'autres portaient celui du général Burkhane, le visage barré d'une croix et l'inscription « Burkhane d'or ». Ils ont scandé des slogans demandant aux militaires de retourner dans leurs casernes, comme chaque semaine depuis le coup d'état du général Abdel Fattah al-Burkhane, malgré une répression qui a fait 116 morts et des milliers de blessés. Le putsch a brutalement arrêté la transition démocratique lancée en 2019 après la chute d'Omar el-Béchir. Début juillet, à la surprise de tous, le général Burkhane s'est dit prêt à s'effacer devant un gouvernement civil. Mais pour les forces pour la liberté, le changement, principal bloc civil du Soudan, il ne s'agit que d'une tactique pour garder la haute main sur le pays. Le pays, déjà l'un des plus pauvres au monde, ne cesse de s'enfoncer dans le marasme politique et économique. L'inflation avoisine les 200%, la monnaie est en chute libre et le prix du pain a été multiplié par 10 depuis le putsch.
Au Mali, l'armée a annoncé hier que deux soldats maliens ont été tués et trois blessés dimanche dans une attaque à l'engin explosif improvisé dans l'ouest du pays. L'attaque a été revendiquée par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda qui disent qu'elle a eu lieu entre les villes de Kagoro et de Tumbula dans le cercle de Nara. Les autorités congolaises ont lancé hier à Brazzaville des états généraux de l'éducation pour tenter d'apporter des solutions aux nombreux maux qui gangrènent le secteur éducatif du pays. Michel Joseph.
Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, en ouvrant ses assises, a dépeint un tableau sombre allant du délabrement des infrastructures à la baisse du niveau des enseignements. Il a aussi évoqué la qualité des enseignants, pour la plupart bénévoles et sans formation, et l'intensification de la violence en milieu scolaire. De nombreux experts sont d'avis que le système éducatif congolais s'est dégradé à cause des nombreuses guerres civiles que le pays a connues. Après le lancement de ces assises, des consultations sont prévues dans l'ensemble des départements. L'ambition est de construire un pacte social sur l'école pour les 5 ou 10 prochaines années, a expliqué Elo Matson Mampuya, chargé de leur organisation. Ces états généraux doivent s'achever en décembre et un rapport sera remis au président Denis Sassou Nguesso, qui cumule près de 38 ans à la tête du pays.
Le régulateur sud-africain des médicaments a signalé un deuxième cas mortel de SGB, syndrome de Guillain-Barré, une rare atteinte neurologique chez des personnes qui avaient reçu le vaccin anti-Covid du laboratoire américain Johnson & Johnson. Contacté par l'AFP, Johnson & Johnson a souligné mardi, sans faire directement référence au cas sud-africain, que le SGB est un effet indésirable, très rare, mais grave, qui est associé à l'administration de divers vaccins et autres médicaments et qui peut être également déclenché par certaines infections.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins une centaine de soldats arméniens et azerbaïdjanais ont été tués mardi dans des combats. La communauté internationale appelle à un règlement pacifique du conflit à Koubaoué Draogo.
50 militaires azerbaïdjanais ont été tués suite à une provocation arménienne à la frontière entre les deux pays. C'est ce qu'affirme le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan. Pour sa part, le premier ministre arménien Nikol Pachinian fait état de 49 soldats arméniens tués. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir lancé les hostilités. La Russie a annoncé un cessez-le-feu hier, mais aussitôt l'Azerbaïdjan a accusé l'Arménie de le violer. L'Union européenne et les États-Unis réclament l'arrêt des hostilités. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les deux pays à prendre des mesures immédiates pour désamorcer les tensions. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques du Caucase, se sont affrontés lors de deux guerres au cours des trois dernières décennies, la dernière ayant eu lieu en 2020. Chacun veut contrôler le Nagorno-Karabakh. Cette enclave majoritairement peuplée d'Arméniens a fait sécession avec le soutien de l'Arménie.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi à la solidarité et à la coopération pour faire face aux défis multiples d'un monde en danger. Il a lancé cet appel à l'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations unies, Eric Maniakidza.
Nous sommes confrontés à un monde en danger à travers tout notre travail pour faire avancer la paix, les droits de l'homme et le développement durable, a déclaré Antonio Guterres. Des conflits au changement climatique, à un système financier brisé qui déçoit les pays en développement, à la pauvreté, aux inégalités et à la faim, aux divisions et à la méfiance. Faire face à ces défis nécessite une solidarité perpétuelle, une coopération et de forger des consensus et des solutions, a-t-il insisté, à une semaine du début de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale. À partir de mardi prochain, des dizaines de chefs d'État et de gouvernement du monde entier doivent s'exprimer chacun leur tour à la tribune de l'Assemblée générale pour cette grand-messe annuelle.
Deux Palestiniens et un officier israélien ont été tués ce mercredi lors d'échanges de tirs près du point de passage entre Israël et la ville palestinienne de Jénine, en Cisjordanie occupée, ont indiqué le ministère palestinien de la Santé et l'armée israélienne. Et puis ici aux États-Unis, un immense feu de forêt dans l'État de l'Oregon continue de dévorer les arbres et d'envelopper la région dans une épaisse fumée altérant la qualité de l'air. C'est l'un des nombreux feux ravageant l'Ouest américain qui subit une longue sécheresse. Les détails avec Nanit Talani.
Cedar Creek Fire a détruit près de 37 500 hectares dans l'Oregon et n'est pas du tout maîtrisé, selon les autorités. La fumée continue de créer une mauvaise qualité de l'air qui risque de se poursuivre pendant plusieurs jours. Les pompiers continuent de se battre pour empêcher la propagation du feu. Plus de 2000 habitations et 400 bâtiments commerciaux restent menacés, mais les autorités ont baissé le niveau d'alerte de leur plan d'évacuation dans certaines zones. Des centaines d'habitants ont déjà reçu l'ordre d'évacuer et les autorités ont prévenu des milliers d'autres de se préparer à partir si le besoin se fait sentir. Depuis fin août, un autre incendie, le Double Creek Fire, ravage le nord-ouest de l'Oregon et a déjà détruit près de 62 000 hectares de forêt. Plus de 90 incendies sont actifs dans plusieurs États de l'ouest des États-Unis. Les pompiers combattent actuellement Fairview Fire dans la périphérie de Los Angeles et le Mosquito Fire aux alentours de Sacramento.
La Minute Echo, Mohamedou Humfa.
Le Niger et la Banque mondiale ont lancé mardi à Niamey un programme d'électrification visant à porter le taux national d'accès à l'électricité à 30% en 2026 et à 80% d'ici à 2035 contre 17,5% actuellement selon le ministère nigérien de l'énergie. D'un coût de 317,5 millions de dollars, ce projet dénommé ASKE, Lumière en langue locale Haoussa, ambitionne d'accélérer l'accès à l'électricité pour les ménages urbains et ruraux, les établissements de santé, d'éducation et les entreprises. Au Cameroun, les recettes fiscales ont connu une augmentation de 140% entre 2010 et 2022, passant de 992 à 2384 milliards de francs CFA, a révélé le directeur général des impôts mardi à Douala lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques. Selon lui, cette performance est à mettre sur le compte des réformes entreprises par l'administration fiscale, notamment la digitalisation de son administration qui a facilité et sécurisé les paiements et réduit le temps consacré par le contribuable à l'acquittement de ses obligations. La compagnie de recyclage des métaux non ferreux basée au Royaume-Uni, Romco Metals, mène un ambitieux plan d'expansion en Afrique. Après avoir installé une deuxième usine près de la capitale ghanéenne Accra, elle prévoit d'en ouvrir au moins trois autres sur le continent et de tripler sa production d'ici à 2025. Pour réduire son plan d'expansion, Romco veut lever 50 millions de dollars.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite des matchs de la deuxième journée en Ligue des Champions ce soir en Europe.
Oui, la Juventus Turin joue déjà gros ce mercredi contre le Benfica après sa défaite d'entrée contre le PSG la semaine dernière. Justement, le Paris Saint-Germain devra se méfier des Israéliens de Maccabi Haïfa. Recrue phare de Manchester City, après deux saisons et demie à Dortmund, Erling Haaland accueille sans état d'âme son ancien club du Borussia. Chelsea, du nouveau coach Graham Potter, joue face au Red Bull Salzbourg. Le Real Madrid accueille le RB Leipzig.
Quelques résultats des matchs d'hier.
Opération rachat réussie pour Liverpool. Après leur lourde défaite inaugurale à Naples, 4 buts à 1, les Reds ont réagi contre l'Ajax Amsterdam, battu 2 buts à 1. Grâce à des buts de l'Égyptien Mohamed Salah et du Camerounais Joël Matip. Pour ses retrouvailles avec Robert Lewandowski, le Bayern Munich de Sadio Mané a dompté le FC Barcelone de son ancien buteur 2 buts à 0. Le club Bruges a réussi l'exploit d'aller s'imposer à portée 4-0. L'Atlético Madrid a plié les Chines 2 à 0 devant Leverkusen. Et puis, on attendait Tottenham d'Yves Bissouma comme favori d'un groupe D très ouvert, mais c'est le Sporting Portugal qui a pris les commandes de la poule avec une victoire in extremis face aux Spurs 2 à 0. Match sous haute tension à Marseille. Un supporter allemand a été blessé et 17 personnes interpellées lors de la défaite de l'OM au Vélodrome 1 but à 0 contre l'Eintracht Francfort.
Basketball ici aux États-Unis, le propriétaire des Suns de Phoenix, suspendu un an pour racisme et misogynie.
La NBA, Ligue nord-américaine de basketball, dit avoir suspendu un an Robert Sarver, propriétaire des Suns de Phoenix, et lui avoir infligé une amende de 10 millions de dollars pour comportement raciste et misogyne. Il ne peut plus diriger de franchise et il lui est interdit d'assister à des rencontres, comme de fréquenter les installations des équipes de la NBA et de la WNBA. Il lui est reproché d'avoir traité ses employés de manière inéquitable, utilisé des mots ne tenant pas compte des sensibilités raciales, un langage sexuellement connoté et d'avoir eu une attitude relevant du harcèlement. Selon le rapport, Robert Savers a, entre autres, dit à une de ses employées enceintes qu'elle ne pourrait plus faire son travail correctement si elle devenait mère.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, la grève de l'Union des syndicats et des acteurs judiciaires paralyse l'administration publique et l'appareil judiciaire. Ces organisations revendiquent des meilleures conditions de vie et de travail. Une situation qui n'émeut ni le gouvernement de transition, ni les participants au dialogue national, nous dit N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
Quand bien même la justice est fermée, que la santé est fermée, ça ne dit rien au gouvernement. Les gens s'occupent seulement de la conférence. Tant que le gouvernement ne viendra pas s'asseoir et en discuter avec nous, nous ne levons plus la grève.
Gounou Vaïman-Ganfar est secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad fustigeant le comportement du gouvernement. Une grève qui a eu des conséquences négatives dans les établissements sanitaires. Le médecin-chef de district de N'Djamena Sud, Dr Mahamat Bezo Ernest, qui gère 22 centres de santé et 2 hôpitaux, déclare à VOA Afrique les effets de ce débrayage.
Sur les 22 centres de santé, 4 sont étatiques. Depuis que l'UST avait déclaré la grève sèche, nous avons échangé avec les responsables des 400 santé étatiques pour prendre en charge, orienter les cas très graves vers l'hôpital Notre-Dame des Apôtres, qui est un hôpital confessionnel. Donc ils travaillent 24 heures, ils n'observent pas la grève. Au niveau de l'hôpital de Lignon, les malades qui sont déjà hospitalisés, les chefs de service viennent continuer à donner les soins parce qu'ils sont déjà entre nos mains avant la grève. Donc on ne peut pas les renvoyer.
Une garde malade d'un hôpital de la place se plaint du fait qu'il y a eu des morts dans la salle de soins où un de ses parents est hospitalisé.
Ils sont en grève là. Médicaments,
nous ne sommes pas contre le fait que le personnel soignant observe un arrêt de travail pour revendiquer une meilleure condition de vie. Mais quand même que les cas d'urgence tels que accident de la voie publique, par exemple, soient pris en charge. La période de la grève est mal choisie parce que le paludisme fait rage et donc le personnel doit penser à la population démunie qui n'a de moyens pour se faire soigner à la clinique. Hier, ils sont venus nous donner un peu de produits, mais la grève continue. Ce n'est pas bien ce qu'ils font.
Les greffiers et les deux syndicats des magistrats du Tchad observent aussi un arrêt de travail pour exiger, entre autres, le rétablissement de salaire de leurs collègues suspendus, la revalorisation des indemnités et la dotation des magistrats en armes de poing après plusieurs attaques sur des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Taouka Bruno est le président du syndicat autonome des magistrats.
Une dotation des armes partielle a été faite. Et il était question qu'un mois après, une deuxième comment devait couvrir la totalité du nombre de magistrats. C'est ce qui n'a pas été fait. Deuxièmement, par rapport aux indemnités, le chef de l'État avait donné des instructions à faire de séjour. Le ministre Gardesso avait donc créé une commission et un travail a été fait. Et il était question maintenant qu'on puisse remonter cela à la plus haute autorité pour avis. Et nous avons estimé qu'à ce niveau, il y a un peu du dilatoire et c'est comme ça que les magistrats ont décidé de manière unanime de faire une cessation de travail pour 2 semaines.
Taouka Bruno reconnaît que les effets de cette grève sont immédiats, mais les gros perdants sont les prévenus qui ne peuvent pas être switchés sur leur sort. Pour l'heure, il n'y a aucune réaction du côté du ministère de la fonction publique ni au ministère de la justice. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le dialogue national inclusif et la tension politique au Tchad. Alors que ce forum a du mal à progresser, l'Église catholique a annoncé qu'elle suspendait sa participation. Pendant ce temps, le bras de fer se poursuit entre le pouvoir et le parti Les Transformateurs qui a boycotté le dialogue national. Plusieurs membres de cette formation politique sont arrêtés, mais la convocation de son leader, Succès Masra, a été suspendue par la justice. Où faut-il attendre de ce dialogue national au Tchad et comment interpréter la tension politique dans ce contexte? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAAfrique.com.
Une honte, un cirque, une mascarade, quelques-uns des termes utilisés par les Sénégalais pour décrire ce qui s'est passé lundi lors de l'installation des députés de la 14e législature. Pour eux, c'est un sacré coup porté à la démocratie, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Il aura fallu l'intervention des gendarmes au sein même de l'hémicycle pour que l'élection du président de l'Assemblée nationale puisse avoir lieu. Une image qui a fait le tour du monde et qui dégrade le statut de la démocratie sénégalaise. Mamadou Lamine Sadio pense que l'Assemblée de rupture tant annoncée a échoué dès sa rentrée.
D'après ce qu'on a vu, il ne peut pas y avoir de rupture. Il y a eu de la bagarre, des insultes et de la cacophonie. Et je pense que les députés n'ont pas été élus pour ça. Ils ont été élus pour le bien des populations, mais le comportement des députés a brisé tous mes espoirs.
Une rentrée loupée, c'est le constat de cet enseignant. Hassan Thiam pense que les intérêts personnels ont biaisé la rupture tant attendue.
Ce n'est pas la rupture. Moi, je pense que ce sera une continuité. Parce que les politiciens ne sont là que pour des intérêts plutôt personnels. C'est un gâteau, il faut se le partager. Et chacun va obtenir la plus grande part. C'est tout simplement ça.
Pierre Kali, lui, n'est pas de cet avis. Téléphone portable en main, l'homme scrute les dernières informations sur la toile. Pour ce commerçant, cette onde de choc était nécessaire pour provoquer la rupture attendue.
Le problème au Sénégal, c'est que quand on bastonne quelqu'un, on l'empêche de crier. Alors, au lieu de dire à celui qui tape, arrêtez ce que vous faites, non, on condamne celui qui crie, qui pleure, qui est battu. C'est ça la rupture même, parce qu'il y a l'arrogance du parti au pouvoir, l'indiscipline caractérisée, mais ce n'est que des garçons qui sont là-bas, ils vont s'affronter et ça va être sérieux.
Des chaises détruites, des batailles rangées, des insultes, un règlement intérieur violé de l'histoire du Parlement sénégalais. Jamais l'institution n'a été autant critiquée, alors qu'avec sa nouvelle configuration, beaucoup entrevoyaient la rupture. Et pour clore le tout, Aminata Touré, ancienne Premier ministre qui était pressentie pour diriger l'hémicycle, a boudé. Elle a commencé à tirer à boulet rouge sur son patron, Macky Sall. Céline Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Togo, dans une dizaine de jours, ce sera la rentrée des classes pour les parents. C'est la croix et la bannière face à la hausse vertigineuse des prix des fournitures scolaires. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
Aux abords du marché de Totchi de Lomé, où sont rangés des étalages de vente de fournitures scolaires, Koudjou Kabalo, fonctionnaire de son état, est dépité. Venu acheter des cahiers, des livres pour ses enfants, il réalise que le compte n'y est pas. Il repassera plus tard.
L'année passée, c'était quand même mieux. Et les paquets de cahiers que nous achetons, je me rappelle, à 900, sont passés à 1300. Ailleurs, même, vous pouvez trouver ça jusqu'à 1500. Et c'est trop, hein. J'ai trois enfants et l'année doit passer la phase de terminale. Et je me demande comment nous allons faire cette rentrée pour que les enfants puissent aller à l'école. Ça ne serait pas quand même un exercice aisé pour moi.
Kafui, vendeuse d'articles scolaires au marché, se défend.
Avant, les cahiers sont à 15 000 le carton, le 17 000 le carton. Maintenant, cette année, c'est 23 000, 24 000. Imaginez, combien on peut vendre.
Pour réduire les charges des parents et leur éviter des achats inutiles, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques a publié une liste officielle des fournitures pour cette année scolaire. Le journaliste Eric Johnson a apprécie la démarche.
Il y a des établissements qui allongent ou rallongent la liste des fournitures, soi-disant qu'ils les gardent en cas de nécessité. Mais jusqu'à la fin de l'année, on ne sait pas comment ça se passe. Et ça, c'est un surcoût pour les parents dans l'achat de fournitures. La publication de cette liste-là, je pense que au-delà de la vie chère, la pression que les parents ont ici et là, va diminuer quand même.
Au-delà de la publication officielle de la liste des fournitures, Pasteur Edo Komi du mouvement Martin Luther King, une association de défense des droits humains, appelle le gouvernement à faire plus.
Dans ce domaine de l'éducation, l'État togolais doit intervenir pour fixer le prix des fournitures scolaires, pour donner un souffle de soulagement aux populations à quelques jours de la rentrée scolaire. Parce que les dents commencent à grincer et les gens risquent de démissionner. Les parents risquent de de jeter l'éponge par rapport à leur responsabilité parentale pour pousser cette rentrée. Donc pour nous, le mouvement Matel Petit interpelle le gouvernement à agir pour normaliser le marché, pour normaliser les prix.
C'est aussi le vœu de certains parents qui espèrent que les prix des fournitures scolaires vont baisser un peu d'ici la rentrée scolaire fixée au 26 septembre. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Il était considéré comme le parrain de la nouvelle vague. Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard est décédé ce mardi 13 septembre à l'âge de 91 ans. Il était l'un des réalisateurs les plus acclamés du monde, connu pour des classiques comme « À bout de souffle » et « Le mépris » qui ont repoussé les limites du cinéma. Sur l'héritage laissé par Godard, Arzuma Compaoré a joint Boukari Sawadogo, professeur d'études cinématographiques.
Ce que je retiens de Jean-Luc Godard, c'est un cinéaste précurseur, un gentleman qui est venu vraiment travailler à travers ses différents films, a donné une autre lecture de ce que ça veut dire faire du cinéma. Je le dis dans le contexte du cinéma français des années 40-50, un peu encore dans les années 30, où c'était plus de l'adaptation des œuvres littéraires. Mais voilà, quelqu'un qui est passé de la théorie à la pratique. Théorie parce qu'il est théoricien du cinéma, et il a d'abord fait ses armes en tant que critique du cinéma, et il est passé derrière la caméra, et il a apporté une certaine innovation au niveau du tournant, surtout avec la caméra légère portée à l'épaule, qui permet des prises de vue dans des angles très serrés. Et au niveau des acteurs, il permet aux acteurs une certaine improvisation, ce qui ajoute encore un grain de sel. C'est un décor naturel qu'il tourne. Il a permis une certaine évolution du cinéma qu'on peut voir aujourd'hui avec Nollywood ou bien le cinéma africain comme des prolongements, et avant ça, le cinéma novo-brésilien aussi comme prolongement.
Jean-Luc Godard et l'Afrique, il y a une histoire, mais qui n'est pas très connue. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
C'est l'histoire du Mozambique qui est nouvellement indépendant. Avait recruté les trois cinéastes, Jean-Luc Godard, Jean Rouch et un cinéaste brésilien de nom de Rui Guerreira pour aider ce pays-là nouvellement indépendant, c'était entre 77 à 78, de mettre en place une chaîne de télé. Et pour Godard, c'est vraiment un projet très intéressant de pouvoir créer l'image en termes de cinéma ou en termes de télé dans un espace là où ça n'existait pas. Mais malheureusement, cette histoire a tourné au court, ça a été un échec et rarement on en parle, ce lien. Je pense que beaucoup de pratiques et de traditions cinématographiques en dehors de mainstream Hollywood ont là un modèle pour s'inspirer, pour dire, écoute, nous aussi, on peut présenter notre manière de raconter notre histoire, de se projeter et d'amener les cinéphiles à se reconnaître, à s'identifier à l'histoire qui se déroule à l'écran.
Le professeur Boukari Sawadogo sur l'œuvre et la vie du cinéaste Jean-Luc Godard.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebudia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.